Eh bien, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, je voulais parler de ce que l'on entend parfois comme l'expression l'amour fou. Alors, est-ce que l'amour fou existe vraiment? C'est une question, effectivement, parce qu'on voit bien des couples qui sont ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, c'est vraiment impressionnant, hein. Alors, évidemment, s'ils ont 90 ans qu'ils sont ensemble, ce sont des gens qui sont nés dans les années 1920, 1930. Voilà, hein, c'est une autre génération d'une autre époque. Donc les mœurs actuelles ne peuvent pas s'appliquer rétroactivement comme ça n'a aucun sens, et ce serait une projection anachronique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, notre époque. Alors, il y a un peu de tout, c'est sûr. Il y a des familles constituées, donc de sortes infinies, voilà. Et puis, il y a le couple. Alors le couple, avant que naisse de lui sa progéniture, sa famille, etc., d'abord, les deux êtres sont en couple. Alors c'est là que je voudrais intervenir pour faire référence un peu à Jacques Lacan, et qui dit Jacques Lacan dit nécessairement faute, puisque Lacan a dit aux origines, allons aux origines, allons, il faut absolument revenir à Freud, allons, allons, ne perdons pas de temps. Et donc, Lacan, à un moment donné, dans le séminaire livre 18, je crois que c'est d'un discours qui ne serait pas du semblant, il se réfère au yin et au yang. Bon, alors, sans rentrer dans cette dimension intellectuelle, hein, assez profonde. Moi, je dirais que effectivement, cela rejoint la question de l'incomplétude. C'est-à-dire que on a beau parler d'harmonie, parce que quand on dit le mot couple, le signifiant couple implique, comme dans la biologie ou la microbiologie, ou dans les sciences, on parle de couple. On parle de couple entre les organes sexuels d'une fleur, hein, une fleur est bisexuelle, le couple de ses organes, du pistil, de l'anthère, etc. Enfin, vous voyez, donc dans ce domaine-là, où il n'y a pas de langage, même si on peut supposer qu'il y a une forme de communication que les scientifiques révèlent aujourd'hui, enfin, ce n'est pas du langage articulé, avec la question de la métaphore, etc. Bien sûr que non, hein. Donc dans ce règne biotopique, le biotope végétal, la microbiologie et biologie, dans des structures relativement primitives, parce que dans les animaux, on ne va pas parler de couple, vous voyez, il y a un rapport sexuel qui se fait, et puis il y a des bébés, etc. Mais je veux dire, en tout cas, on peut parler de couple dans le domaine de cette biologie, de ces domaines scientifiques, si vous voulez. On peut parler de couple, vous voyez. Bon, si on parle d'un triptyque en peinture, là, ce sera trois tableaux, mais là, on est dans les objets purs et durs. Enfin, voilà, mais bon, en art, en tout cas, on parle de triptyque, de diptyque aussi. Mais donc voilà, le mot couple, finalement, s'invite très facilement dans notre société. Donc on banalise le mot couple, on dit quel couple, oh là là, quel joli couple, qu'est-ce qu'ils sont bien en couple, c'est-à-dire même un couple fille-maman, fils-maman, père-fils, père-fille, enfin on dira plus un couple quand même, pas vraiment avec le père, vous voyez. Est-ce qu'on peut le dire fille-mère ou fils-mère, c'est autre chose encore, je ne sais pas. Mais effectivement, le mot couple va directement concerner un partenaire amoureux et une partenaire amoureuse, évidemment, qui sont ensemble, qui partagent un certain quotidien depuis X temps. Donc, si vous voulez, on parle beaucoup dans ce champ-là d'harmonie, d'entente, de fusion, couple fusionnel, amour fou, etc. Mais si on prend l'expression amour fou et couple fusionnel, je dirais pas que c'est presque la thermodynamique, mais si vous voulez, il y a une soudure, si vous voulez, qui fait que les structures se changent elles-mêmes dans leur rapport à la soudure. Lacan, pour ça, un outil qui est très intéressant, c'est la question du poinçon. Voilà. Donc, il parle du poinçon au cœur de l'écriture, de l'énoncé ou du discours du fantasme entre le sujet et le petit objet A. Le petit objet. Donc, voilà, le sujet, comment dirais-je, se subordonne à l'objet au point qu'il est objectalisé, si vous voulez. Il devient objet, le sujet, un peu quand même. Et inversement, l'objet va prendre une extension vers le sujet, mais il va se libérer. Alors, c'est toute l'ambiguïté de l'écriture du fantasme. Hein. S petit bar, Poinçon petit a. Pour parler du fantasme, on va s'arrêter à cette écriture du fantasme. Le Poinçon représente une importante part de sens, parce que le Poinçon, c'est beaucoup. Hein. Alors, dans le couple, on pourrait dire, eh ben, voilà, il y a le S barré petit 1, Poinçon, S barré petit 2. Ben, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que ça n'a jamais été écrit comme ça par Lacan, etc. L'autre écriture dans laquelle Lacan, très astucieusement, va mettre un Poinçon, c'est dans S barré, Poinçon, grand D, demande. Alors là, il se met en demande, c'est une personne qui se met en demande dans sa vie, en permanence. Il est en demande, il se met lui-même en demande. Se mettre en demande, c'est même dans un travail auprès d'un ou en tant que patient dans l'analyse, c'est quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire que là, par contre, le sujet ne se fusionne pas à l'objet, mais à ce grand D. Alors qu'est-ce que c'est que ce grand D? C'est une autre affaire. Revenons à notre propos. Donc l'amour fou, le couple fusionnel, oui, c'est le poinçon par excellence. Hein. Entre quoi et quoi, c'est la question. Voilà, bon, donc on va dire entre X et Y, il y a un poinçon, je sais comment le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce poinçon. Donc effectivement, d'ailleurs, c'est peut-être de ces questions auraient pu être abordées chez Taddeï, Frédéric Taddeï, à l'époque où il faisait son émission, ce soir ou jamais, je ne sais pas, peut-être aurait-ce une occasion à cette époque effervescente de débat infinis comme ça qui serpentaient l'émission, que je trouvais pour ma part assez remarquable parce que c'était, il y avait cette effervescence, etc. Avant que les médias ne se rétrécissent dans une forme comme ça conique, j'ai l'impression que maintenant c'est une espèce de bombardement télévisuel désincarné. Bon, bref, donc effectivement, voilà. Alors, l'amour fou, le couple fusionnel, oui, il y a ce poinçon qui est là, qui est présent. Mais c'est surtout qu'il y a une incomplétude. Voilà ce que dit Lacan, c'est qu'il y a de l'incomplétude. On a beau parler de fusion, d'amour fou, mais il y a fondamentalement de l'incomplétude. Parce que le savoir qui finalement organise le rapport sexuel dans le lieu du symbolique, ben, il y a un endroit où il y a de l'inconscient, si vous voulez. Il y a un endroit où le savoir va plonger. Comme une plaque de subduction dans les profondeurs de la Terre, le savoir va se mettre à plonger, à collisionner quelque chose, il va se mettre en immersion, il va plonger, le savoir va plonger, et il deviendra un savoir inconscient. Voilà, c'est qu'à ce moment-là, dans une certaine prolongation du savoir conscient, n'est-ce pas, il y a du savoir inconscient, il y a du non-su, le savoir non-su. Donc c'est un savoir qui ne se sait pas. Et pour aller le pêcher, voilà, en extirper des morceaux, des bouts de savoir, eh bien, il faut en passer par une psychanalyse. Il faut déterrer ces refoulements de ce savoir non su qui constitue l'inconscient, pour reprendre la topique de Freud, déjà en 1900, dans les années 1920, pas loin du crash de Wall Street en 29, hein, mais bon, il y avait quand même parallèlement à ces époques matérialistes, techniciste et fondées sur l'argent, le profit et tout ça, il y avait des avancées fulgurantes du côté de Freud et après de Lacan, effectivement. Lacan, ce sera beaucoup plus tard, mais quand même. Donc c'est vrai que, effectivement, quelles que soient les agitations de l'époque politiquement, socio-économiquement, il y a quand même, effectivement, l'idée d'un progrès toujours permanent, même en sciences humaines et sociales, même dans des domaines qui peuvent paraître, à un moment donné, se figer, bien qu'il y a quand même d'excellents aujourd'hui pédagogues, d'excellents transmetteurs, etc., et des chercheurs, y compris en sociologie plus particulièrement, peut-être en psychanalyse, où il est peut-être plus difficile de se faire une place, de se frayer un chemin d'innovation, à la hauteur de ce qu'on pourrait en entendre sur les médias comme des prouesses avancées, incroyables, telles qu'on le voit dans les sciences et techniques, les sciences dures. Bon, mais non, en sciences humaines, c'est plus ténu, en sciences humaines, c'est plus mou, hein. Les sciences dures, sciences molles, ça veut dire quelque chose quand même. Sur le plan épistémologique, c'est quand même très péjoratif, hein, cette rhétorique verbale et sémantique. Donc voilà. La question, donc, effectivement, du couple avec le poinçon, c'est une question, parce qu'effectivement, L'incomplétude du couple, elle est fondée dans l'incomplétude aussi du rapport sexuel. Le rapport sexuel n'existe pas, nous d'accord, parce que rien que lorsque l'on le nomme, on dit quelque chose qui est de l'ordre du symbolique et qui n'est construit que par du symbolique et qui ne fait que recouvrir, comme un bloc sur la statue qui est à l'intérieur, la statue, si vous voulez. Mais il n'atteindra jamais la statue. La statue, on n'en atteindra jamais. On aura beau gratter dans le bloc de marbre, on n'atteindra jamais la statue interne qui compose intrinsèquement ce bloc de marbre. Donc, si vous voulez, cet énoncé, le rapport sexuel recouvre quelque chose, en fait, qui est tout petit, qui est minuscule, et qui n'est même pas le poinçon, bien sûr. Le poinçon n'est là que dans la forme pathologique ou la comorbidité de l'imaginaire, ou sans parler de cela, simplement du fantasme à l'état pur. C'est que le couple amour-fou ou le couple fusionnel, ce n'est que fantasme. Voilà. Fondamentalement, sur celui-ci, l'incomplétude n'existe pas. L'incomplétude, pardon, existe. Il y a fondamentalement une incomplétude de par l'impossibilité du rapport sexuel. Qui va un peu au-delà du coït, si vous voulez, c'est dans l'idée d'un rapport de contact charnel, d'une danse charnelle, si je puis dire, entre les époux, entre les amants. Mais quoi qu'il en soit, ils vont, à un moment donné ou à un autre, s'égarer dans le rapport sexuel. Ils vont s'égarer, hein, Lacan parle d'égarement, à un moment donné, dans le rapport sexuel, lorsque les partenaires cherchent, veulent trouver une sorte d'extase, de seuil d'extase. Auquel cas, il trouve un seuil effectivement de plaisir, mais c'est de la jouissance. Voilà. C'est que il faut voir les choses dans la perspective à partir de ces impasses, dans le cadre de la jouissance. Voilà. La jouissance, en psychanalyse, ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas du bien-être. La jouissance, c'est plutôt de la souffrance. C'est plutôt une programmation par le chiffrage qu'elle comporte en elle-même. Hein, une programmation qui fait que les individus ordonnent leur vie, articulent leur vie, les signifiant différents, le défilé des signifiants d'une façon telle que ça s'ordonne comme une programmation plutôt où il y a un semblant de plaisir, si vous voulez, mais c'est un peu comme quand on se gratte les pieds lorsqu'on a des mycoses, on prend plaisir fou à se gratter les pieds, mais n'empêche, on ne fait qu'accroître la plaie de nos pieds parce qu'il y a des mycoses. Enfin, c'est un peu réducteur, mais effectivement, on peut dire que de toute façon, eh bien, la question de la jouissance est très présente. Cela ordonne plein de choses. Construire une famille à sa façon, enfin, vous voyez, c'est tout cela. Les gens jouissent. Effectivement, mais c'est synonyme, enfin en tout cas c'est directement l'équivalence de la souffrance en psychanalyse, la jouissance. La jouissance, c'est, sans même le dire, souffrance, c'est une programmation, si vous voulez, qui fait que les individus s'assujettissent à cela, hein, en tant que sujet, bah, ils s'assujettissent à cette jouissance. Effectivement, sans aller trop loin dans cet exposé, effectivement, nous pouvons dire que il y a aussi la question de la métaphore, c'est-à-dire que la façon dont le sujet, dont les amants vont organiser leur vie sociale autour de leur amour, au sein de leur amour, eh bien, ça va être une métaphore en tant que réponse à un quelque chose. Et là, comme on parle en général, c'est difficile de donner un exemple, mais effectivement. Si c'est une réaction par rapport à une famille ancienne, le fait qu'ils vont l'un et l'autre découvrir leur nouvelle famille de leur partenaire, et bien effectivement, et ben, c'est l'occasion pour eux d'un peu d'enterrer la famille d'origine pour la recouvrir d'une famille nouvelle qui est la famille du couple. Mais comme toutes les configurations sont possibles, il y a des familles infernales de A à Z, donc effectivement, c'est toujours cet espace intime, l'espace du couple qui est en jeu, si vous voulez, qui est sous le joug de la société de consommation, du cinéma, de tout ce que vous voulez, des séries, des appareils électriques, des voitures, les constructeurs de voitures aussi, les constructeurs d'automobiles font des trucs incroyables, on a une espèce de cocon hyper aérodynamisé avec une densité de composants dans la voiture qu'on dirait que c'est une espèce d'ordinateur sur pattes. Plus vraiment une voiture des années 60. Alors, c'est vrai qu'effectivement, le couple est visé par le marketing, la société de consommation. Donc, si vous voulez, il est visé, il est regardé, le couple est regardé. On peut dire que pour rejoindre l'histoire de l'œil absolu de Vajman, Gérard Vajman, c'est que le couple est regardé. Il est beaucoup regardé. On n'est pas seulement regardé quand on se balade dans la rue, qu'on voit quelque part. On est regardé, fondamentalement, quand on occupe une position, une place sociale, on est regardé. Voilà. Dans le travail, on est regardé. On est regardé. Et bien avant qu'il y ait les dispositifs optiques dont parlait Gérard Vajman, avec les caméras de vidéosurveillance, eh bien, il y a de toute façon du regard. Quoi qu'on en dise dans la société, il y a du regard. Voilà. Donc, Lacan parlait de la pulsion scopique, je crois bien, pour parler de la question du regard. Donc, c'est vrai que si vous voulez, le regard est un constituant même de l'organisation, du symptôme, du savoir, du fantasme, de la jouissance. Bon, alors pour revenir à ce que je disais, l'incomplétude du couple, elle n'est que là parce qu'il ne peut y avoir à un moment donné que de l'inconscient. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a dans cette fournaise de fusion du couple quelque chose qui résiste, si vous voulez, quelque chose qui fait, comment dirais-je, objet de résistance, de même de blocage, parce que la fusion que je compare à ce poinçon chez Lacan, eh bien, est un étouffement, est un écrasement, est en réalité le super poinçon de l'époque, finalement. D'ailleurs, on le voit bien dans certaines sciences ésotériques, alors je ne parle pas du feng shui parce que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé que ça, et même extrêmement différent. Ça, d'ailleurs, en feng shui, on parle de vide. Le secteur 5, c'est le vide absolu, c'est le vide. Il faut du vide. Il faut à un moment donné, grâce au feng shui au taoïsme, il y a du vide. Avec Lao Tzu, il y a du vide. Le vide, c'est essentiel. Donc justement, ça rejoindrait Lacan, parce que Lacan, il ne parle pas de vide. Il va dire, il y a le vide, effectivement. Lacan parle un peu du vide, quand même. Hein. Bon, mais il va surtout aussi parler de l'inconscient, la question de l'inconscient. C'est qu'il y a continuellement du savoir, sauf qu'à un moment donné, le savoir plonge dans les abysses marines pour se transformer en savoir inconscient, si vous voulez. Bon. Et dont le savoir afférent et les connaissances antérieures se rencontrent, créent un savoir présent, mais ce, à un moment donné, ce savoir va petit à petit, avec l'écoulement du temps, l'écoulement des expériences, s'enfouir dans la mémoire du sujet et va déteindre comme couche de sédiments dans les profondeurs de l'esprit, les profondeurs mentales et toucher au savoir inconscient. D'autant s'il y a effectivement la question du traumatisme, alors là, ça va directement dans l'inconscient, si effectivement la seule solution, c'est le symbolique, c'est au sujet de dérouler, de passer en forme cathartique, de pouvoir exprimer ce qui lui a fait très peur, ce qui l'a traumatisé, et donc essayer par la forme cathartique maïeutique aussi, l'accouchement des vérités, hein, des signifiants maîtres. C'est-à-dire de sortir ces signifiants maîtres refoulés dans l'inconscient pour pouvoir désamorcer le stress post-traumatique. Quoi qu'il faut quand même un accompagnement, quoi qu'il faille un accompagnement aussi par rapport à ce stress post-traumatique. Donc voilà, je vais vous laisser sur cet enregistrement, j'espère que ça vous a plu. Et nous reprenons ces questions volontiers si vous en faites la demande, si vous voulez me consulter, voilà, vous avez mes tarifs, vous avez toutes les déclinaisons de services possibles dans ce site internet, rapportées par contre aux mêmes et strictes mêmes compétences. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci.